téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux enfants.
Les réseaux sociaux,
ils ne peuvent pas. Il est 9h40, merci d'accueillir l'Instant M dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Voici un genre aux codes éculés, tant ils ont été charriés et caricaturés par les chaînes de la TNT. Seul le sérieux de l'enquête et des reconstitutions fait encore la différence dans l'univers cathodique des affaires et des faits divers. Surprise, Crime et châtiment sur France 3 s'affranchit de pas mal de clichés pour suivre un procès d'assises. Liberté de ton, liberté de relation avec les acteurs du dossier confère une certaine finesse au regard qui y est porté. Bonjour Christophe Ondelatte.
Bonjour.
Un peu d'Europe 1 tous les matins et ce retour en télé. Prochain rendez-vous, c'est lundi soir avec Manuela González-Cano, accusée, condamnée en première instance pour le meurtre de son mari. Mais que des doutes, pas de preuves.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, beaucoup d'actu médias ce matin. Je vous les soumets d'ailleurs, si vous le souhaitez, Christophe Ondelatte, réagir. Françoise-Marie Santucci, directrice de la rédaction de Elle, quitte son poste. Elle y sera remplacée par une ancienne du journal, spécialisée dans la mode et la beauté, Erin Doherty, qui était passée depuis à la tête de Glamour, le magazine Glamour.
Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom.
Le choix de mon nom ?
Oui, madame. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine.
Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth.
Soit. Longue vie à la reine Elisabeth.
Extrait de The Crown, devant laquelle je passe personnellement toutes mes nuits. Je vous conseille d'en faire autant parce que c'est une série
d'accord,
magnifique.
D'accord.
C'est pas votre cas. Donc.
Non.
Non, The Crown. Donc c'est consacré à la couronne britannique, la production la plus coûteuse du site Netflix. Quelques mots sur cet opérateur numérique devenu incontournable géant de la vidéo à la demande qui compte 86 millions d'abonnés dans le monde. BFM Business explique ce matin sur son site qu'en 10 ans, Netflix a multiplié sa capitalisation boursière par 25 à plus de 50 milliards d'euros. C'est quasi l'équivalent, et c'est ça qui est intéressant, des valeurs des 10 premiers groupes de télévision gratuite en Europe réunis, dont Sky, TF1, M6, RTL Group et Mediaset. Par ailleurs, Netflix autorise depuis hier le téléchargement de ses contenus, dont la possibilité de partir en vadrouille avec des films et des séries à regarder, même là où il n'y a pas de connexion Internet. Ça existe déjà, Canal+ et OCS le proposaient. TF1 annonce ce matin racheter Minute Buzz, 9 millions d'abonnés et 2 milliards de vidéos vues depuis le début de l'année, ça fait rêver. Minute Buzz n'est même plus un site, mais un producteur de contenu pour les réseaux sociaux, comme l'Instant M, vous en parlez par exemple la semaine dernière avec Renaud Levanquim qui crée Brut, exactement dans le même esprit, mais aussi, on les a invités mardi, le site BuzzFeed. Tous les appétits visent désormais ces plateformes qui cartonnent auprès des très jeunes.
J'en veux vous l'aurez parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps. Vous savez qu'il ne s'intéresse pas vraiment. Les gens qui fournissent ce travail, les équipements, les voici. J'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain.
Voilà, et pour terminer ce petit journal des médias, décidément, on n'enquête pas sur Vincent Bolloré impunément. Après avoir initié une procédure devant le tribunal de commerce, réclamant 50 millions d'euros à France Télévisions et devant un tribunal camerounais, Vincent Bolloré vient de redéposer plainte, encore une fois, devant le TGI de Nanterre, sur le portrait réalisé par Tristan Valex, qu'on avait reçu également au moment de la diffusion dans l'Instant M. Cette diffusion, c'était le 2 avril dernier, c'était dans Complément d'enquête. C'est une information sortie hier par nos confrères de l'Obs. Précisons, dans le même temps, vous en a parlé également, que la loi égalité et citoyenneté a profité de son passage au Sénat pour transformer de manière très grave les motifs qui permettent d'attaquer les journalistes. Voilà, je vous ai livré toute l'actu média. Christophe Ondelatte, vous voulez réagir ?
Non, je pense au complément d'enquête sur Vincent Bolloré. Moi, je l'ai vu, j'en ai un souvenir extrêmement précis de ce documentaire. Et honnêtement, enfin, revoyons-le, rediffusons-le. Il y a rien dedans.
C'est précisément parce qu'il a été rediffusé.
Ouais, je sais, mais
Vincent Bolloré.
Il y a précisément rien dedans qui pose problème. Il y a ce témoignage de ce jeune que vous avez rediffusé, qui est un mineur, et l'histoire
qui travaille dans une plantation.
Il est était un mineur, qu'il travaille dans une plantation. Deux choses. D'une part, c'est vrai. D'autre part, on ne peut pas non plus tenir Vincent Bolloré lui-même en haut de l'entreprise responsable du fait qu'il y a un mineur qui travaille au bout de la chaîne, quelque part en Afrique. Et les gens qui voient le documentaire remettent les choses en perspective. Il n'y a pas de nécessité d'entrer dans un conflit. Et je comprends pas parfois la stratégie de Vincent Bolloré qui semble vouloir mettre le feu partout où il passe en ce moment. Après une vie de silence, de discrétion qui lui a porté chance, son empire a prospéré dans le silence. Et je me demande s'il est stratégique dans ce combat qu'il semble vouloir mener contre les élites aujourd'hui, dit-il, les élites notamment médiatiques, si c'est stratégique pour
Alors,
son empire.
Alors, moi je nuancerai un tout petit peu votre propos, c'est-à-dire que les journalistes qui ont beaucoup travaillé sur l'extension de l'empire Bolloré ont remarqué que partout où il est passé, il y a eu de la casse, du bruit et de la fureur parfois. Sauf qu'il se trouve que là, il s'attaque à des questions de télévision, à des questions de médias, et que l'ampleur médiatique et que l'écho que ça produit est évidemment bien plus plus bruyant.
Je crains que les conséquences pour lui ne soient plus néfastes parce qu'il attaque France Télévisions que s'il n'avait rien dit. Voilà, je pense qu'il avait intérêt à ne rien dire et on n'en parlerait plus. Et tout le monde aurait oublié ça. Enfin, c'est de la base. On se demande parfois s'il est bien conseillé en termes de communication. Je crois qu'il a l'agence Havas dans son portefeuille. C'est étonnant de voir un homme aussi potentiellement conseillé en termes de com faire des fautes aussi graves que celle-là. Quoi.
Bien, allez, crime et châtiment.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors, Manuela González-Cano a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari en première instance. Ensuite, elle a été libérée par décision de la Cour européenne de justice. Elle revient aux assises. Toujours pas de preuves. Vous écoutez, Ronald Gallo, c'est, comme le décrit Christophe Ondelat lui-même, un vieux ténor du barreau de Grenoble, un vieux crabe comme il les aime.
C'est une épreuve, la cour d'assises, c'est une épreuve physique, une épreuve psychologique. Elle est concentrée, mais à l'aise. Alors qu'à l'occasion de la première instance, là, elle était figée.
Elle n'a pas été bonne,
figée, au premier procès. Figée, cachée derrière ses cheveux... pas à la hauteur de la tâche, parce que malheureusement, vous venez de le dire, il faut être bon. C'est quand même extraordinaire. Un accusé, en plus de dire la vérité, il faut qu'il soit bon, comme s'il s'agissait d'une prestation.
Alors, Crime et châtiment, vous proposez désormais sur France 3, une fois de temps en temps, c'est pas un magazine régulier. C'est à la fois une formule très classique et en même temps, je l'ai dit, c'est un genre qui s'est démultiplié sur la TNT et avec des budgets réduits, donc des enquêtes bas de gamme. Globalement, ça a fait beaucoup de mal au genre, vous êtes d'accord? C'est quand même tout ça est très caricaturé, très cliché, très éculé.
J'ai la chance d'abord d'avoir été précurseur sur le genre et la chance au fond qu'on ne m'ait jamais comparé aux autres. Ce sont les autres qui se sont mis à faire du fait divers quand j'ai commencé à en faire.
Mais vous, vous reposez forcément la question quand vous recommencez à en faire aujourd'hui en télé.
Honnêtement, je pense n'avoir jamais regardé un seul magazine de faits divers autre que, même pas les miens d'ailleurs, je les regarde pas non plus. Je me suis jamais intéressé à ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ont entre 4 et 5 fois moins de budget que nous et que le sérieux découle des moyens qu'on nous donne.
Et du temps.
Et du temps qu'on y passe. Et du temps, ce dossier-là, Manuela González, je l'ai lu de la première à la dernière pièce dossier. J'ai assisté à l'intégralité du procès avec une équipe de 3 caméras et un ingénieur du son pendant la totalité du procès qui dure 6 jours. Aucune équipe de la TNT n'a les moyens de faire
évidemment,
ce que nous faisons.
Évidemment.
Et à cela s'ajoute l'intention, je résiste et je continue de résister, mais je suis aidé par ma chaîne, à la reconstitution. Ils font tous de la reconstitution. De plus ou moins bon goût. Moins on a d'argent, plus elle est cheap, reconstitution. Dans Crime et châtiment, comme dans Fait entrer l'accusé, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais avec moi. Je n'ai pas envie de représenter le geste du meurtre. Je pense que le geste du meurtre reste un mystère. Dans l'affaire Manuela Cano, il y a cette voiture, un monsieur qui brûle à l'intérieur de la voiture, qui est son mari. On ne sait pas quand ça s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas si l'assassin était seul ou s'il y avait deux personnes. Il y a tout un mystère à ce moment-là, on n'a aucun intérêt à le représenter.
C'est ce qui fait que cette affaire est absolument, évidemment, fascinante et passionnante. Alors, il y a quand même un peu de musique anxiogène hein, dans Crime et Châtiment, mais c'est relativement léger, quelques habillages graphiques qui rappellent quand même l'univers dans lequel on est. Il y a un seul, ce qui devait arriver, arriva. C'est le seul, hein. Mais c'est ce que
je suis pas un grand adepte du poncif en général.
C'est ça.
Donc j'ai laissé passer celui-là, je vous en demande partout.
Et il y a quand même un ton extrêmement libre, décontracté. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Et du coup, il y a une facilité de discussion avec tous les acteurs du dossier qui donne un traitement assez subtil à cette affaire. Alors on y vient. D'abord, vous utilisez le jeu. Vous utilisez le jeu du début à la fin. Comme vous dites, hein, j'ai lu ce dossier, cette femme m'intrigue, j'avais envie de voir les tontons et les tatas qui sont partis civils. Le couple m'intrigue. Vous utilisez la première personne, vous utilisez votre subjectivité.
Oui, parce que l'idée est de... C'est un personnage. Mmh. Je suis un personnage dans cette émission. Je ne regarde jamais la caméra. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour moi, c'est tout à fait nouveau. C'est la première fois de ma vie que je fais de la télé sans regarder la caméra. Je ne la regarde jamais. J'évolue dans cet univers. Et la caméra me filme avec les acteurs de cet univers. Donc, c'est mon regard sur cette affaire. C'est ça. C'est parfaitement assumé. Vous parlez de l'esthétique de l'émission. On assume absolument d'avoir repris les codes des séries américaines. Sans aucun problème. C'était dans le projet. C'était écrit. C'était ce que nous souhaitions. Et nous y sommes.Ous y arriverons de plus en plus et de mieux
en
mieux.
C'est ça. Mais en même temps, ça reste relativement sobre. On connaît vos pratiques épistolaires avec des détenus. Elles ont déjà fait beaucoup de bruit. Là aussi, vous l'assumez tout de suite et vous l'indiquez tout de suite. Vous échangez des lettres avec Manuela.
À peu près un mois avant.
Gonzalez Cano.
À peu près un mois avant le début de chacune de nos enquêtes, j'écris aux intéressés pour les prévenir. Pour leur expliquer que j'anticipe le fait qu'ils sont pas contents qu'on fasse ça. Parce que c'est jamais de se dire on va passer en prime à la télévision, c'est une manière d'entrer dans le panthéon du crime. Voilà, c'est au-delà de s'occupe de moi, nom de Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu... Il manquait plus que ça.
C'est vraiment intéressant parce que moi j'ai retrouvé une lettre que vous avez adressée par le biais, me semble-t-il, de témoignages chrétiens. C'était un aumônier catholique, un visiteur de prison, qui vous disait mais vous vous rendez compte du mal que vous faites parce que le regard des co-détenus changent.
Complètement.
Voilà, et forcément les familles, leur entourage, etc. Donc c'est des choses que vous avez intégrées forcément.
Totalement. Ça a longtemps été un problème pour moi. Ça a d'ailleurs fait, pour être très honnête, partie des raisons pour lesquelles il y a 3 ans, j'ai cessé de présenter fait entrer l'accusé. Il y avait une addition d'inconvénients qui... Fait entrer l'accusé traitait d'affaires anciennes. Alors parfois, des gens étaient au bord de sortir de prison, et tout d'un coup, on venait raconter toute leur vie au moment où ils avaient fini de purger leur peine et ils allaient sortir. Ça me posait un problème moral qui a été évidemment très animé par ce aumônier de prison que Raymond Dier, que je connais, que j'aime bien, qui est un type intéressant et qui m'a rappelé à la question morale du traitement de ce sujet. Je m'en suis un peu détaché quand j'ai écrit ce projet-là parce que, pour le coup, je traite d'affaires au tout début, au moment où les gens vont être condamnés, vont purger leur peine, et donc ils ont, en ce qui concerne Manuela Gonzalez Cano, 30 ans devant eux.
Voilà, c'est ça, 30 ans devant eux, mais en même temps c'est du frais, c'est du très très chaud que vous nous livrez là. Alors, pas de preuves, pas d'aveux, forcément vous mettez en scène le doute et ce qu'on appelle l'intime conviction, donc c'est pas rien que vous mettiez en scène, vous, parce que vous filmez, vous mettez en scène votre propre intime conviction, et d'ailleurs la façon dont elle évolue au fur et à mesure. À un moment, vous discutez avec une jeune dessinatrice aux assises et vous lui dites, mais moi je comprends ce qu'elle fait aux hommes, Manuela, je la trouve magnétique, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui se met en scène comme ça.
C'est la... Enfin, je pense que ce film-là, celui qui passe lundi, va marquer ma vie personnelle et ma carrière. C'est la première fois que j'ai un contact aussi rapproché, aussi suivi, aussi intime avec une accusée. Il s'est passé quelque chose entre Manuela et moi. Elle comparaissait libre parce que c'était l'application d'une règle de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que quand on fait appel, on doit être jugé dans un temps raisonnable. Elle n'a pas été rejugée dans un temps raisonnable. Elle a donc obtenu sa libération. Et elle est venue libre. Et dans les premiers courriers qu'on a échangés, elle a dit « Hors de question, je vous parlerai jamais ». Et moi, le premier jour que je l'ai vue, dans le regard que nous avons échangé, j'ai su que nous nous parlerions à un moment de ce procès. Ouais. Et ça se passe une heure avant le verdict.
Alors, on va y venir à ce procès. Ah oui, parce que filmer quelqu'un qui est sous séquestre et qui attend le verdict, c'est quand même assez rare de voir ça à l'image.
C'est aussi la confiance de la présidente de la cour
d'assises. On va réécouter Maître Ronald Gallo, on va le réécouter parce que ce procès en question, il pose des questions absolument passionnantes auxquelles vous vous êtes frotté.
On n'interdit pas d'évoquer le passé, mais qu'on ne cherche pas à se servir de ce passé pour justifier une condamnation.
Ça ne sera pas facile. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'elle a tué Colazo ou qu'elle a tué le chevalier.
Mais on ne peut pas le dire, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire des choses, d'une part, pour lesquelles elle n'a pas été accusée, et l'un des deux, elle a même eu un non-lieu. Non mais c'est invraisemblable. Donc soit on fait le procès du passé et on le fait à fond et on se défend, mais c'était invraisemblable, soit on ne le fait pas, soit on respecte la présomption d'innocence.
Ce à quoi vous ajoutez, bon courage, ça va être difficile. Quand je dis que vous avez cette forme de liberté de discussion. Alors d'abord, cette question d'un procès dans lequel il n'y a pas de preuves, mais en revanche, Manuela González-Cano a des cadavres dans le placard. Oui. Je vous propose de ne pas dévoiler les cadavres, parce que c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure de Crime et Châtiment, et c'est intéressant.
Oui, enfin voilà, c'est une femme qui est poursuivie pour le meurtre d'un homme, mais en fait, dans son curriculum vitae, il y a un certain nombre de maris qui sont morts, et d'autres qui ont failli mourir. Elle n'a jamais été condamnée pour ça, elle était parfois poursuivie, elle a fait l'objet pour l'un d'entre eux d'un non-lieu, et elle arrive là avec ce sac à dos, évidemment. Elle arrive là avec ce passé, comme le dit Ronald Gallo, en droit. On peut pas évoquer ses morts, mais ils sont là, comme des fantômes.
C'est
ça. Ils sont là tout au long du procès, et évidemment...
C'est ce qui est moralement et intellectuellement, évidemment, très excitant dans cette histoire.
Et au bout, elle est condamnée pour ça. Pour l'ensemble
au
de
nom
son
de
œuvre.
Quoi
oh, oui, mais pour l'ensemble de son œuvre, parce que il est vrai
l'ensemble
que
l'ensemble de son œuvre, c'est d'ailleurs une expression que vous utilisez face à l'un des avocats et ça le fait totalement sursauter.
Si ça peut vous démontrer que le texte est écrit par moi.
Oui, c'est ça.
Ça vous le démontre.
Alors, comment filmer un procès? Comment mettre en scène un procès? Puisqu'on sait très bien que les caméras sont obligées de se retirer dès lors que la cour fait son entrée. Là aussi, c'est assez astucieux parce que vous réussissez à faire quelque chose de relativement vivant. Il y a la dessinatrice de presse, dont vous faites quasiment un personnage, en plus d'utiliser ses...
Elle est récurrente, elle est là dans tous les films. Émilie Oprescu, qui est une toute jeune dessinatrice qu'on a rencontrée sur notre première affaire. Et on s'est dit, elle a un regard d'une fraîcheur sur ses affaires judiciaires. On la garde. Et donc, elle était, par exemple, je viens de tourner un procès à Grenoble il y a 10 jours, elle était avec nous à Grenoble.
Ça, d'ailleurs, c'est assez joli ce qu'elle dit sur Manuela González-Cano. Elle dit elle se tait bien.
Ouais.
Et en même temps, vous faites vivre quelque chose qu'on voit rarement, c'est-à-dire vous faites vivre les couloirs du palais. C'est-à-dire que vous montrez toute l'intensité des visages qui entrent et qui sortent du prétoire, parce que finalement, là aussi, il y a un théâtre à l'extérieur.
Et alors, j'ai pu le faire dans ce numéro-là, j'avais pas pu le faire dans le premier numéro, parce que la cour d'assises de Paris est en enfer. Pour travailler. Parce que pour des raisons qu'on...
Là, on est en Isère.
Qui ne parviennent pas à expliquer. On est à Valence, dans la Drôme. L'appel a lieu à Valence, dans la Drôme. Et à Valence, on a pu travailler tranquillement, dans les limites qu'impose la loi. C'est-à-dire, la caméra se retire quand l'audience reprend. Mais hors de ça, on est là. À chaque interruption d'audience, les caméras sont dans la salle. Le premier jour, les gens se cachent un peu. Et puis, avec le temps, tout le monde prend l'habitude que nous soyons là. Et ça a été la même chose au procès que nous avons suivi à Grenoble, pour le coup, il y a 10 jours. Petit à petit, nous appartenons au décor. Et du coup, nous arrivons à saisir comme ça...
Ça vous paraît légitime aujourd'hui, cette interdiction de filmer au cours de l'audience, maintenant que les procès sont live-tweetés, au fur et à mesure...
Deux choses. Je ne suis pas un adepte du live-tweet. Je pense que le live-tweet envoie à l'extérieur l'écume d'un procès. Or, ce que montre le suivi d'un procès d'assises, c'est qu'il faut avoir suivi l'intégralité des débats. On l'a vu avec l'affaire Fiona la semaine dernière. Tous ceux qui n'ont pas suivi l'intégralité des débats
ne comprennent pas
ce verdict. C'est très intéressant ce qu'a fait d'ailleurs Corinne Audouin de France Inter. Qui est une live tweeteuse par ailleurs, donc je la suis pas dans cette aventure parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt d'envoyer des phrases comme ça à des gens qui n'ont pas le contexte. On ne sait pas qui parle et on ne sait pas à la question de qui répond cette personne. Donc moi, le live tweet, c'est pas mon intérêt. Filmer les procès d'assises, j'ai fait partie il y a une dizaine d'années d'une commission initiée par le garde des Sceaux, Pascal Clément, sur cette question.
Ouais.
Est-ce qu'il faut autoriser les caméras à entrer à la cour d'assises et à filmer les procès? Et ma position va vous étonner, mais le citoyen a pris le pas sur le journaliste. je ne souhaite pas que le procès d'assises devienne le lieu d'une forme de télé-réalité. Parce que lorsqu'il y aura la télé, il y aura les avocats vedettes. Lorsqu'il y aura les avocats vedettes, il y aura un avantage au procès télévisé. Je ne le souhaite pas. Et donc, même le journaliste qui aimerait bien,
c'est
évidemment...
C'est la fin de l'émission, Christophe Ondelat. Mais c'est vrai que c'est un sujet absolument passionnant. Crime et châtiment, lundi soir sur France 3, à l'extérieur, donc, du prétoire.